Bonjour et bienvenue sur la table ronde jeux de rôle et formation. Donc on va commencer par faire un petit tour de présentation. Je vais commencer à gauche. Donc à mon extrême gauche, Julien Poire, qui est professeur de chimie et rôliste depuis pas mal d'années.
Absolument, et bonjour à tous.
Juste à ma gauche, Manuel Bedouet, qui est chef de projet et concepteur de jeux de rôle.
Bonjour.
Personnellement, je suis président d'une association de jeux de rôle en nature. Juste à ma droite, Sébastien Delfino, qui est graphiste freelance, MJ, podcaster et plein d'autres choses. Et enfin, à l'extrême droite, Eric Minguet, qui est formateur. On ne peut pas dire à l'extrême droite. L'extrême gauche, vous n'avez pas de problème. Donc,
j'ai pas été bon stratège du tout.
Donc, sur le fauteuil à droite de ma droite.
Tu peux parler de ta
Dex. Tu dis à votre gauche, parce beaucoup que moins ça marche comme ils sont dans l'autre sens.
Donc, Eric Minguet, qui est formateur pour adultes et rôliste. Alors, on va commencer par un tout petit propos d'introduction. Qui est se poser la question de pourquoi cette table ronde, parce qu'effectivement jeu de rôle et formation, donc jeu et formation, on pourrait éventuellement se dire que nous avons deux notions différentes. Effectivement, d'un côté la notion de jeu qui est une activité improductive qui fonctionne sur une certaine horizontalité, parce qu'effectivement tous les joueurs ont le même niveau et qui ne produit rien. Et d'un autre côté, plutôt la formation, qui est une activité basée sur une relation, donc formation en lien avec l'enseignement évidemment. Donc une activité met en relation un formateur et un élève, et qui a comme objectif de produire un savoir. Alors justement, pour casser cette grande question, je vais faire un petit tour de la table pour savoir naïvement comment faites-vous pour faire ou qu'est-ce que vous utilisez comme jeu de rôle dans le cadre de votre formation ?
À proprement parler, je n'utilise pas directement de jeu de rôle, mais j'utilise des méthodes qui sont utilisées beaucoup en jeu de rôle. Alors, puisque tu demandes un exemple, je vais en donner un seul, unique, pour commencer. Dans un certain nombre, alors moi je suis prof de chimie, donc je fais pas mal de travaux pratiques. Dans mes travaux pratiques, il m'arrive de scénariser un petit peu les situations, dans le sens où je vais introduire des événements perturbateurs à l'intérieur du déroulement du TP pour pouvoir permettre aux étudiants de développer un certain nombre de réflexes vis-à-vis de ça et de se situer, de se positionner par rapport à ces situations. Par exemple, je leur enlève un produit qu'ils ont l'habitude d'utiliser à un moment du TP et ils sont obligés d'en trouver un autre pour le remplacer. Voilà. Donc introduction d'éléments perturbateurs, scénarisation et maîtrise du rythme et du déroulement du temps, comme dans la plupart des jeux de rôle.
Alors on va passer maintenant à Manuel.
J'ai donné pas mal de formations autour de la pratique radiophonique à une époque, et le fait de placer de toute manière des gens qui a priori viennent pour se former plutôt sur une approche technique dans le rôle d'animateur, et vraiment on est dans une construction de rôle, ça permet d'acquérir des attitudes qui contextualisent aussi des savoir-faire et qui du coup permettent de comprendre quels sont les enjeux pour d'autres personnes avec qui, et d'autres spécialistes avec qui les personnes formées vont être amenées à travailler.
Quand j'enseigne le graphisme, un des problèmes qui se posent, c'est les jurys de fin d'année qui opposent de gentils petits créatifs tout neufs à de très méchants jurys dont ils se font tout un monde. Donc une de mes préparations au jury, c'est de leur faire jouer le jury, en leur demandant de monter le niveau au fur et à mesure, c'est-à-dire au début ils sont un gentil jury, puis ils deviennent un jury légèrement désagréable, puis le jury carrément inintéressé, voire carrément odieux, et ils s'aperçoivent qu'en fait c'est non seulement supportable pour peu qu'on soit préparé, mais que d'un autre côté c'est vraiment une question d'attitude, y compris de la part du jury. Une fois qu'ils ont compris que même le jury jouait un rôle, ils ont moins peur.
Alors moi j'ai un contexte qui intervient auprès de professionnels déjà en exercice qui souvent sont dans un cadre où il y a une situation de changement qui est demandée par leur encadrement. Et du coup, l'une de mes difficultés est d'amener à l'acceptation du changement et voire même à l'implication dans le changement. Donc j'utilise le jeu de rôle pour notamment permettre à ces gens de se mettre dans une posture autre à un instant donné pour essayer de leur permettre aussi de glaner les avantages de situations qu'ils vont vivre ultérieurement. Alors on essaiera de développer un petit peu le sujet. Il est question ici en fait de mettre en application un concept qui est celui de l'agentivité, qui permet, grâce au jeu d'un personnage qui n'est pas moi, d'outrepasser mes propres limites morales pour tester des mécanismes qui ne seraient pas acceptables autrement. Je prends par exemple le cadre de quelqu'un à qui on va demander un apport commercial à son job qui est un job technique. Il va y avoir des gens très réfractaires à cela. Si effectivement, hors de leur cadre habituel, je leur fais jouer des personnages commerciaux dans des contextes externes, ils s'interrogent sur les compétences à mettre en œuvre, ils essayent de les mettre en œuvre, puis au final, ils disent que c'est peut-être des choses qui peuvent leur être utiles, voire même au-delà d'un enjeu professionnel. Et à partir de là, le terreau est un peu plus fertile pour permettre ces conditions de changement.
Alors justement, on peut, maintenant que vous m'avez, pas convaincu, mais illustré votre pratique par l'utilisation de jeux de rôle dans le cadre de formation, pourquoi utiliser spécifiquement le jeu de rôle et pas d'autres jeux ? Quelle est la richesse apportée par le jeu de rôle ?
Le jeu de rôle, de façon générale, c'est la production d'un récit à plusieurs. La production d'un récit à plusieurs de façon semi-improvisée, puisqu'il y a un certain nombre de règles à cette production de récit qui sont mises en place en début de partie. Ça favorise un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. Il y a pour moi un savoir-faire qui est fondamental dans le jeu de rôle, qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les autres formes ludiques, ou en tout cas moins. C'est une vraie capacité à l'écoute active et à la capacité de reprendre ce qu'apporte l'autre, de le faire sien et d'y ajouter quelque chose, mais en tout cas de ne pas refuser la parole de l'autre. Dans des contextes où on doit très souvent fonctionner en équipe, se mettre dans ces dispositions-là, de vraiment faire une passadise verbale avec les autres joueurs, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est particulièrement productif. Et on voit bien chez les pratiquants de jeux de rôle que ça développe une aisance verbale aussi avec d'autres individus pour peu qu'ils aient réussi à s'isoler un peu de contraintes sociales autres. Il y a un certain nombre de timides qui se mettent au jeu de rôle et on voit bien que ça les débloque. Et c'est strictement ça. Et puis ouais, la capacité aussi à vraiment prendre en compte la parole de l'autre, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental et spécifique au jeu de rôle.
Et j'ajouterais aussi que le jeu de rôle, contrairement à beaucoup d'autres formes de jeu, a un côté qui peut être totalement dématérialisé dans ce qu'on utilise. Pour se baser, comme tu disais, Emmanuel, sur la conversation, contrairement à des jeux différents qui peuvent aussi être utilisés dans le cadre de l'enseignement ou de la formation, mais qui vont fonctionner un peu différemment, qui demandent une préparation très différente. Pour ma part, quand j'utilise des mécanismes de jeu de rôle, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup, que j'utilise aussi en jeu de rôle, c'est l'improvisation, notamment pour déterminer les meilleurs exemples à prendre face au public vis-à-vis duquel je suis, etc., etc. Ce que je ne peux pas faire si je travaille avec un support dans un jeu type jeu de cartes, par exemple. Il y a quelques années, on a essayé avec quelques étudiants de mettre en place un jeu de cartes pour enseigner la chimie organique. Ça a plutôt bien marché dans les expériences qu'on a faites, mais ça se limitait vraiment à ce que le support de jeu proposait. Donc on étudiait un certain nombre de réactions chimiques et les seules réactions chimiques qu'on pouvait étudier et avec lesquelles on pouvait jouer dans ce cadre-là, c'était celles permises par le jeu de cartes. Et c'est une limitation qui n'existe pas la plupart du temps quand on fait du jeu de rôle.
Moi, je n'utilise pas du tout que le jeu de rôle pour enseigner, mais la spécificité, c'est dans le titre, c'est de leur permettre d'expérimenter un nouveau positionnement par rapport à leurs compétences ou par rapport à la situation. Là, pour le coup, définir un rôle pour les...
La notion de rôle, en fait.
Tout simplement.
Alors, en fait, je pense que par expérience autour de cette table, on est tous des grands pratiquants de jeux de rôle. Pardon ? Oui, un petit, oui, exact. Oui, mais toi, t'animes. Du coup, effectivement, l'une des idées qui revient souvent dans l'image qu'on a des rôlistes, c'est que c'est un peu l'image de l'otaku.
Excuse-moi.
Ouais.
Rôliste. Petite précision, qu'est-ce qu'un rôliste ? Un rôliste est une personne qui pratique le jeu de rôle en tant que joueur ou maître du jeu. Merci, tu peux reprendre.
Merci, chef. Du coup, effectivement, on les a souvent vus comme étant des otaku, et dans une certaine partie des cas, c'est assez vrai. Otaku,
je te on pourrait faire. Qualifier de geek aussi, voilà. Mais plutôt sur le point de vue, c'est une notion plutôt japonaise, donc une personne qui va être repliée sur ses activités. Désolé de traduire, hein, mais je me mets à un niveau assez bas, non, mais c'est ma
coup,
raison d'être en fait.
Du coup, je me laisse faire, hein, tu remarqueras. Donc en tout cas, ce sont souvent des gens qui avaient des problématiques d'intégration sociale. Et pour la plupart, on s'est rendu compte qu'arrivés à l'âge adulte, eh bien, ils n'ont plus trop ces problématiques qu'ils ont pu rencontrer durant l'adolescence ou l'enfance. Et que ça leur a facilité la tâche en se projetant dans des contextes qui étaient différents par l'imaginaire. Et effectivement, quand on transpose à des conditions de cadre de référence très, très particulier lié à mon contexte de travail ou à mon contexte d'enseignement, en fait, on peut en profiter pour débloquer des peurs, débloquer des difficultés à l'apprentissage par des outils qui sont une transposition dans un rôle extérieur à ce que je suis habituellement.
Et puis après, la pratique du jeu de rôle déclenche pas mal d'acquisitions de savoir-faire connexes. Si vous faites du Donjons et Dragons et vous ne savez pas comment le mettre sur votre CV, dites que vous avez eu des longues périodes de pratique d'expérimentation du team management. Parce que globalement, un groupe d'aventuriers dans un donjon, c'est très exactement ça. On gère des savoir-faire différents et on va trouver face à des situations problématiques les solutions avec les personnes les plus adaptées et du travail d'équipe pour résoudre ces problèmes. Et honnêtement, ça marche.
Pour rebondir ce que disait Eric, là on parle de jeu de rôle, effectivement... de l'activité ludique exercée, alors attention, hein, je vais peut-être avoir des sales regards, hein, autour d'une table avec des dés, des crayons, une fiche de personnage.
Pas que.
Non,
merci à ma gauche.
Il y a les poches de sang à droite aussi.
D'accord. Il ne faut pas oublier aussi que tout un chacun autour de cette table, mais aussi vous avez fait du jeu de rôle quand vous étiez jeune, mais vous ne le saviez pas. Les jeux d'imitation, les jeux symboliques, ce qu'on appelle le jeu de la dinette, jouer aux gendarmes et aux voleurs, c'est aussi un jeu de rôle. C'est un jeu d'imitation, c'est un jeu symbolique, mais on peut le rapprocher du jeu de rôle.
Oui, déjà, on dirait qu'on serait des pirates, des machins. C'est du jeu de rôle.
Pourquoi des pirates ?
Parce que c'est
tu
cool.
Tu veux pas jouer à la dinette ?
Non, mais t'as vu la moustache de Sébastien en même temps. Enfin, c'est une moustache de pirate. D'accord.
Or donc, je vais essayer de retrouver ce que je voulais dire. La prise de décision en groupe, c'est effectivement une compétence absolument nécessaire aux rôlistes. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tous, mais ils ont tous besoin de l'acquérir à un moment ou à un autre, sinon le donjon va les bouffer, au bas mot. Et c'est effectivement un truc qui est... moi, j'avais testé, j'y avais même pas pensé avant que tu l'évoques, lorsque, avec mes étudiants, j'organise des équipes en distribuant des rôles, en disant machin va être le directeur artistique, machin va s'occuper de la production, c'est-à-dire ton boulot c'est de dire non à tout et de surveiller le budget, et répartir les travaux créatifs, etc. Et de voir ce qu'ils sont capables de faire, non seulement en discutant entre eux de décider, mais aussi ce qu'ils sont capables d'assumer d'autorité à certains moments et de relâcher d'autorité à d'autres. Et c'est extrêmement utile pour un processus créatif d'avoir appris à s'écouter, à lâcher ses idées plutôt que d'essayer de les retenir et de les posséder très fort, mais vraiment les partager avec les autres, et arriver à un niveau où, en termes de décision, on est capable d'exercer des responsabilités en fonction des spécialités qu'on nous a attribuées. Quoi. Et que donc, par exemple, celui qui fait le producteur ne fasse pas chier sur les références symboliques.
En fait, en résumé de ce que j'entends, toi, Manuel, ou... toi, Sébastien, c'est le fait, en fait, on pourrait rapprocher le jeu de rôle ou l'activité en entreprise, c'est de se dire, voilà, on a un objectif commun, on a des moyens divers et l'objectif, ça va être de les utiliser le mieux possible.
Tu m'excuses, mais pas forcément. Encore une fois, je suis désolé. En fait, le jeu de rôle aujourd'hui, c'est aussi et surtout un terrain d'expérimentation extraordinaire de situations extrêmement variées. On peut sortir un peu du donjon. On peut aller faire des jeux complètement différents qui vont nous permettre d'explorer que ce soit des options morales, des options esthétiques. On peut explorer des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'explorer dans la vie en général, ce qui nous permet de mieux nous y préparer. Et il n'y a, à partir du moment où on accepte ce point de vue-là, aucune raison de ne pas utiliser des pratiques qui ressemblent dans l'éducation, puisque c'est par cette expérimentation-là qu'on va pouvoir mieux apprendre les situations auxquelles on devra faire face. Et parmi ces jeux, on peut avoir aussi des situations, ça, je pense qu'Éric pourra en parler, de gestion de conflit, dans lequel on n'a pas forcément un objectif commun à atteindre, et où chacun a son propre objectif, et on va essayer de voir comment on peut s'en sortir dans ces situations-là, voire même d'expérimenter le cas où on ne s'en sort pas. Le conflit, parfois, n'aboutit pas sur une résolution simple et consensuelle. Et dans ces cas-là, il faut savoir quoi faire, savoir le gérer. Et ça, je pense que tu peux en parler très bien.
Ouais, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, qui, dans un contexte professionnel où une équipe a pour mission de réceptionner des appels de clients pour du SAV sur des équipements. Cette équipe est réfractaire à la mise en œuvre d'un prédiagnostic avant d'envoyer un technicien sur site. Ça pose une problématique de coût, puisque généralement, le technicien va être amené à aller sur site, se rendre compte qu'évidemment, dans son petit véhicule, il n'a pas le matos nécessaire, repartir, aller chercher le matos, revenir avec le matos et intervenir finalement sur l'engin en question. Double problématique, parce qu'effectivement, ça génère une vraie insatisfaction d'immédiateté de la part du client, en tout cas d'immédiateté de la résolution. Et ça génère aussi une vraie insatisfaction du côté du client interne qu'est le technicien. Or, ici, pour passer la barrière de ce blocage, qui est un blocage qui est surtout lié à l'aspect technique, les personnes en réception d'appel se disant être incompétentes techniquement sur le sujet ne veulent pas creuser, alors qu'elles n'ont besoin que d'un simple vernis technique pour le faire, qu'elles possèdent déjà. Eh bien, il a fallu passer par un mécanisme où elles ont produit des personnages qui vont être ceux de leurs clients, ceux des techniciens auxquels ils sont confrontés, et ensuite les interpréter pour prendre en considération leur propre problématique. À partir de là, on avait franchi un certain seuil qui était celui déjà d'intégrer le cadre de référence de l'autre. C'est à partir du moment où j'ai intégré le cadre de référence de l'autre que je vais pouvoir me dire « Ah oui, mon rôle n'est pas tout à fait celui que j'exécute aujourd'hui et je peux peut-être être plus performant et plus efficace à la fois pour mon client final et mon client interne. » Ça vous la coupe.
Ouais. Bravo.
Et puis le jeu, c'est aussi, enfin le jeu de rôle et le jeu de façon générale, ça a l'avantage d'être quand même assez fun, ce qui peut être moins le cas pour d'autres sources d'apprentissage. Le fait est que les jeux, c'est quand même des machines à apprendre. La question étant de savoir si on apprend juste à gérer le jeu ou si à travers ce qu'il modélise, on apprend autre chose. Et réellement, en jeu de rôle, la multiplicité des compétences développées au travers d'une partie, que ce soit par le meneur ou les joueurs ou les joueuses, suivant les configurations qui existent, il y a des volumes très très importants sur l'apprentissage de la règle. Enfin, j'ai déjà cité la gestion de l'équipe, l'écoute active, mais en plus on a tout ce qui est apprentissage de règles. Pour peu que ce soit des systèmes un petit peu techniques, ce qui peut arriver, il y a de la gestion statistique et éventuellement stratégique. Il peut y avoir de la production de récits, ça veut dire aussi une acquisition de vocabulaire, ça veut dire, enfin, on discipline son esprit. Et puis bon, on le fait dans un cadre souvent qui est quand même un cadre plus facilement à vocation de plaisir, parce qu'on se met dans cette petite bulle ludique qui fait que le reste compte un petit peu moins pendant un moment. Et grosso modo, on apprend mieux quand on y prend plaisir que quand c'est pénible. Ça, c'est quelque chose qui quand même peut se vérifier de façon assez systématique.
J'ajoute juste un truc, c'est que ça coûte zéro balle en fait. Au sens où quand je fais du jeu de rôle, je peux détruire des planètes, ça dérangera personne et ça ne me coûte rien.
On a un budget effets spéciaux de bâtard.
C'est absolument, non mais c'est vrai, enfin, c'est une dimension vraiment importante. Je lâche le micro.
Je rebondis sur ce que vient de dire mon voisin de gauche, pour ne pas l'étrangler parce qu'il m'est fort sympathique, notamment pour apporter le point du jeu de rôle grandeur nature. Jeu de rôle en nature, donc le jeu de rôle joué en réel, enfin on va dire en réel, en jouant un personnage avec un costume et donc joué dans une certaine réalité, dans la réalité du jeu. Pas là, effectivement, on parle de jeu de rôle grandeur nature ou de jeu de rôle, donc la notion de jeu. Nos jeux ne sont pas si anciens que ça, ils ont en gros trentaine, quarantaine d'années. Depuis quelques années, on observe dans le jeu de rôle grandeur nature une évolution de certains jeux, je ne parle pas de tous les jeux, qui s'éloignent du jeu. Et notamment, c'est une évolution qui vient des jeux nordiques, où on part du principe que le jeu est une expérience sociologique. Une expérience sociologique de groupe.
Ça reste un jeu, hein, excuse-moi. Mais...
Alors, là, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un jeu qui avait mis en place une association de Paris qui s'appelle Expérience. Le cadre de jeu était San Francisco, la communauté homosexuelle, en pleine arrivée du sida. Donc là, effectivement, c'est un jeu, mais voilà, qui n'était pas forcément très joyeux. Ce jeu a été rejoué, parce qu'il a bien marché. Et là, ce qui a été proposé aux joueurs, c'est de dire, bon, ben, vous avez apprécié le jeu, vous allez le jouer, mais avec le sexe opposé. C'est-à-dire que vous étiez un homme, vous allez jouer un personnage féminin. Et c'était la convention de cette deuxième partie, c'est que tous les joueurs masculins jouent des personnages féminins et inversement. Donc là, effectivement, on est dans un cadre de jeu. L'objectif, ce n'est pas forcément s'amuser, mais c'est de vivre quelque chose et en tirer quelque chose.
Ce qui n'en fait pas nécessairement une expérience sociologique. Tu dis toi-même, on est amené à jouer quelqu'un du sexe opposé pour en faire l'expérience, pour mieux apprendre, justement, puisqu'on est dans le sujet, mieux apprendre certains types de comportements. Il est important de noter que ces jeux-là sont toujours très entourés. C'est-à-dire que oui, ce sont des thèmes qui sont souvent graves, qui sont souvent assez difficiles à porter, qui vont toucher profondément les gens qui vont les pratiquer. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est recherché, au passage, hein, de chercher l'émotion, de chercher des situations comme ça extrêmes. Et ces jeux sont encadrés. C'est-à-dire que d'abord, bah, pour parler, je pense que tu cites Mad Bad Boy ou quelque chose comme ça, comme jeu, dans lequel, justement, il y avait une inversion du genre des participants. Dans ce jeu, il y a des ateliers, au départ, pour apprendre, notamment, à se travestir, pour pouvoir jouer de façon crédible. Il ne s'agit pas de faire une caricature dans ces jeux-là. Il s'agit d'essayer vraiment de vivre quelque chose, de jouer quelque chose, mais pas en le faisant n'importe comment. Alors, effectivement, ce n'est pas nécessairement joyeux. Celui-là en particulier, ce n'est pas nécessairement joyeux. Hein. D'ailleurs, je connais beaucoup de GNistes qui ne se sentent pas du tout d'aller jusque-là. Chacun
Excuse-moi,
a ses limites.
GNiste, joueur de jeux de rôle grandeur nature.
Tout à fait. Et ensuite, là, on a le travail de préparation en amont. D'ailleurs, puisqu'on parle de formation, ce travail de préparation en amont, c'est quelque chose qu'on fait dans l'enseignement la plupart du temps. On va aborder une nouvelle notion, on la prépare avant. Et ce qui se rapproche encore une fois du sujet, c'est qu'après ces jeux-là, il y a toujours soit des ateliers, soit des groupes de parole, de débriefing, qui vont permettre à chacun de parler de ce qu'il a vécu et de se libérer de l'expérience et peut-être, pour certains, d'en tirer quelque chose. On fait une remédiation, en quelque sorte.
Moi, je vais faire comme beaucoup de gens aux Utopiales qui sont sur les plateaux. J'en profite. Hein, je vais parler de ce que j'ai écrit. J'ai écrit un jeu de rôle qui s'appelle Sur les frontières, qui est fait pour, enfin, dont la référence est la tragédie, notamment la tragédie grecque, même si ça se passe pas en Grèce, mais en tout cas avec l'idée que on va jouer des personnages qui vont essayer d'échapper à leur destin et qui, selon toute probabilité, vont échouer. C'est le cadre préliminaire du jeu et on n'est pas non plus dans une recherche d'exutoire ou de joie béate. Je crois vraiment que aujourd'hui, dans les pratiques ludiques, Alors on commence un peu à en sortir, mais il y a encore une vieille idée que le jeu c'est nécessairement une distraction et que la distraction, les Américains appellent ça escapism, c'est-à-dire on va, enfin ça va être purement de la
l'évasion.
Pardon?
Escapism, c'est l'évasion.
Voilà, c'est, on va s'évader, on va se défouler, on va pas réfléchir. Alors que on le sait dans toutes les formes ludiques que le jeu peut provoquer de la réflexion, que ce soit en grandeur nature. Mais enfin, je peux citer des jeux vidéo, typiquement un jeu vidéo comme This War of Mine, où on joue des civils pendant une guerre, à savoir pas ceux qui ont des armes, mais ceux qui galèrent pour bouffer et qui sont enfermés dans leur refuge avec des bombes qui tombent. Bah, pour le coup, on n'est pas là non plus pour vivre quelque chose de rigolo. Mais on est là pour vivre quelque chose d'autre que ce qu'on connaît, pour ce que je disais tout à l'heure, se placer dans une bulle, dans un autre moment, et dans ce moment-là, vivre quelque chose qui, effectivement, produit des émotions. Parce qu'une une des vraies problématiques de plein de gens qui font du jeu de rôle aujourd'hui, au-delà de proposer des univers très élaborés ou des mécaniques très... très, très développé, c'est aussi de dire comment je fais des jeux pour proposer de vivre telle ou telle sorte d'émotion, que ce soit du rire, de la tristesse, du doute, et c'est là où on peut vraiment expérimenter des choses et où l'expérience humaine, l'expérience de groupe, le jeu de rôle ne se pratique pas toujours autour d'une table, mais le fait est qu'on est quand même souvent dans une expérience sociale, elle a du sens aussi parce que on vit des émotions et puis on les partage. Quand je parlais d'écoute active, j'y reviens, hein, on est aussi là-dedans. Dans quoi ? Dans le fait d'accepter les émotions des autres. Travailler avec le jeu de rôle, c'est en termes de développement de compétences, quelque chose qui, certes, peut développer les savoirs et les savoir-faire, mais a aussi beaucoup à voir avec les savoir-être.
Justement, ce sujet, je voulais réagir tout à l'heure. Tu as parlé de l'échec. Une part de la formation, c'est pas seulement effectivement transmettre du savoir ou du savoir-faire, c'est aussi permettre aux gens d'expérimenter les émotions auxquelles ils vont être confrontés dans tel ou tel cadre, et notamment la dimension d'échec et le fait de constater qu'un ratage ne vous détruit pas, et à mon avis un truc tout à fait particulier qu'on peut obtenir par le jeu de rôle, d'abord parce que c'est dédramatisé par le rôle, c'est distancié par le rôle, et pour en revenir à mon histoire d'étudiant à qui je faisais expérimenter ce que c'est qu'un jury de sale con, eh bien, ils s'apercevaient qu'en fait, bon, c'est pas une expérience agréable, mais ils n'en sont pas morts et que ils n'en ont pas été détruits dans leur créativité. De même qu'effectivement, en termes de jeu, on commence à expérimenter des choses assez différentes, y compris des jeux qui sont programmés vers l'échec. Il s'avère que moi aussi, j'en ai fait un qui était en playtest pendant la convention. Mais c'est intéressant de voir, notamment, qu'on peut trouver un plaisir, et pas seulement du fun, mais un rapport très émotionnel, de la même manière qu'on s'intéresse à une histoire de manière plus large. Ce n'est pas que... je ne vais plus retrouver mon mot. Bref, on a un rapport émotion dans le jeu, parce qu'on est impliqué, parce qu'il y a une interaction et qu'on agit, qui va au-delà du seul plaisir de « on s'amuse, on gagne ». Il y a aussi l'aspect « on perd » et c'est intéressant de découvrir comment, pourquoi. Je suis toujours trop loin, zut. Et au-delà de la... Je ne retrouverai pas mon mot, saloperie.
La catharsis.
Merci. J'allais dire, c'est grec, aide-moi. Au-delà de la catharsis et du fait d'exprimer une émotion, d'expérimenter une émotion par un biais qui n'est pas soi, qui permet la distanciation, il y a vraiment des choses à trouver dans l'extrême variété des émotions que peut produire du jeu de rôle de manière générale, c'est-à-dire presque toute forme de récit peut y passer. Et ça peut aller de l'émotion particulière que vous avez à comprendre ce qui se passe dans un jeu d'enquête jusqu'à l'expérimentation de l'espèce de plaisir coupable qu'on a à regarder une partie de fiasco partir en sucette. Et être à la fois les victimes et le public amusé de ce qui se passe.
Alors là, c'est moi qui vais faire le maître Capello. Fiasco, c'est un jeu où on joue des gens qui ont des très grandes ambitions et qui n'ont pas du tout les moyens de ces ambitions. Et du coup, qui montent des plans qui vont globalement échouer systématiquement. Et on joue comment le plan va échouer. Alors, c'est un jeu sans meneur, c'est des formats un petit peu particuliers. Je vous encourage à vous renseigner sur ce jeu. Parce que vraiment, en gros, le jeu est conçu originellement pour faire des histoires qui ressemblent un peu à ce qu'on trouve dans les films des frères Cohen. Des losers magnifiques. Ça marche très très bien et c'est une autre façon d'expérimenter le jeu. Alors qu'on est dans une culture où effectivement, jouer le jeu, souvent, c'est jouer la gagne. Bah là, on joue la lose, quoi. Mais bien. Et c'est plein d'enseignements, les jeux sans meneur, parce que on n'a pas un médiateur qui va nous tenir et nous dire voilà ce que vous avez le droit de faire et de pas faire. On apprend à s'autogérer, à prendre l'autogestion. Au-delà du fait que ça fait un peu gauchiste, c'est quand même très intéressant parce que on apprend encore mieux à communiquer avec l'autre, encore mieux à le respecter, encore mieux à essayer de trouver des consensus ensemble. Parce qu'il n'y a personne pour nous dire la bonne décision, c'est Dudul qui l'a pris. Faut qu'on décide ensemble quelle est la meilleure. Je trouve que pareil en termes de savoir-être et de capacité relationnelle, ça génère aussi des choses vraiment vraiment intéressantes. Et à nouveau, on peut expérimenter, on peut apprendre à s'engueuler. Moi, je suis vraiment catastrophique pour m'engueuler avec les gens en vrai. Mais dans les jeux, je peux apprendre ça. Je peux apprendre à le faire sans. En ayant moins peur de blesser l'autre, mais au-delà de ce que ça peut représenter de catharsis, honnêtement, c'est des vrais savoir-faire. Ou au contraire, apprendre à trouver un consensus quand on est quelqu'un d'un petit peu entier. C'est vraiment des choses à expérimenter et que je vous encourage à faire, notamment parce que les jeux de rôle traditionnels ne sont pas très, très bien équipés pour gérer les conflits entre personnages principaux.
J'ajouterais justement que ce qui est très intéressant dans ces jeux-là, c'est de faire l'aller-retour entre le jeu sans meneur et le jeu avec meneur. Parce que d'un côté, alors pour ne pas faire gauchiste, je vais faire éducation nationale pour apprendre l'autonomie, n'est-ce pas ? C'est une compétence qu'on est censé enseigner à nos élèves. Le jeu sans meneur est très intéressant. Maintenant, quand vous passez d'un rôle sans meneur où il n'y a pas de chef, et que vous passez à un rôle avec meneur, quand vous êtes côté joueur, vous apprenez à respecter cette autorité, parfois à la dure. Si vous êtes meneur, vous apprenez à gérer cette autorité. Et pour refaire le lien avec l'enseignement, moi je sais que le fait d'avoir été meneur de jeu pendant 25 ans, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup appris sur les excès qu'on peut avoir dans l'autorité et comment gérer un groupe de gens. Dans du jeu de rôle, une table de joueurs, dans une classe, un groupe d'étudiants, ça m'a appris à gérer cette position nécessairement dominante et à ne pas en abuser.
L'autorité juste.
L'autorité juste, n'est-ce pas ?
C'est beau, tu es en train de définir des compétences liées au maître du jeu, c'est superbe. Je vais revenir moi, sur la question justement de compétences, parce qu'il y a un sujet qui est assez connexe avec le monde du travail. C'est que on définit tout le temps son personnage joué dans le jeu de rôle comme détenteur de compétences spécifiques avec des degrés plus ou moins connus. Alors je vois en face une réticence, mais on va parler d'une certaine pratique du jeu de rôle qui s'inscrit jusqu'à la fin des années 2000, on va dire, d'accord, jeu de rôle traditionnel. Bref, en tout cas, il y a cette représentation de la compétence qui est naturelle dans le jeu de rôle jusqu'à récemment. Il y a aussi un autre élément, c'est les comportements humains qui sont fondamentalement présents dans la description du personnage et qui sont importants en termes d'interprétation, ce qu'on va appeler le roleplay. J'avoue que je me sers beaucoup de ces outils aussi pour déterminer mon rapport avec le conflit et l'émergence du conflit. C'est-à-dire que dans ma pratique professionnelle, je suis largement amené à faire des formations sur la gestion de conflits. Or, pour pouvoir savoir ce qui me fait réagir à une situation que j'éprouve comme étant une situation de conflit, il faut que je sache à quoi moi je réagis, qui est différent de ce à quoi un tel ou un tel autour de moi et autour de la table va réagir. C'est un peu comme la problématique de compétence, c'est-à-dire qu'il va falloir définir mon rapport à l'émotion. Et l'avantage de la création d'un personnage, comme dans l'exemple que je décrivais tout à l'heure, c'est que je vais définir le personnage aussi par ses comportements humains. Et quand je vais le faire jouer, ça va me permettre, chez mes participants, de voir leurs réactions et de les faire étudier leurs réactions à cela. Ça me permet aussi d'aller dans le sujet de peut-être que toi tu as réagi de cette manière-là, mais quand ton collègue l'a interprété avec un autre, eh bien tu vois, ça s'est pas déroulé dans le conflit parce qu'il a pas réagi aux mêmes sollicitations, ça ne lui est pas apparu comme étant un conflit, ce comportement, en tout cas de nature violente à son égard. C'est ta représentation de la chose qui t'a amené à percevoir cela. Donc là où c'est intéressant, c'est que je permets à ces gens-là de s'interroger sur leur propre comportement face au comportement des autres. Et je le définis à l'avance grâce à une feuille de perso. C'est idiot comme mécanisme, mais ça a tendance à bien marcher.
C'est quelque chose que tu as développé toi, ou alors c'est quelque chose qui existe dans ta pratique que tu as repris ?
En fait, c'est quelque chose qui a été développé à plusieurs au sein de mon entreprise, en fait, tout simplement. Et qui a été affiné avec le temps. Pardon ?
Comme on avait discuté avant cette table ronde de ton métier, on avait pas mal parlé du théâtre de l'opprimé.
Alors, j'avoue que, excluant son caractère extrêmement politique, la méthodologie qu'on va retrouver dans le théâtre de l'opprimé va être une méthodologie qui permet l'expression de populations qui sont généralement mal dotées culturellement, on va dire ça comme ça, même si c'est mal dit, et qui ont pour objectif de, en tout cas dans ce qui s'est passé au Brésil, l'objectif initial était quand même de permettre à des paysans sans le sou de réussir à se positionner dans un rapport de négociation avec les propriétaires fonciers particulièrement aisés et dotés d'une culture d'Européens nantis. En l'occurrence, entre le paysan qui est souvent analphabète et l'Européen, enfin le Brésilien nanti, il y a un gap énorme. Qui fait que l'autorité est naturelle, en fait, de l'un sur l'autre. Et si le théâtre de l'opprimé permet de s'entraîner à ces exercices, il permet aussi de rétablir le rapport de force. Mais il permet aussi aux paysans de moins se mépriser lui-même, ce qui est assez intéressant. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont naître dans ma pratique de cette posture-là. De me dire que dans mon rapport, par exemple, à l'un de mes clients, qui va être un client qui est DAF, directeur financier dans son entreprise, je suis pas une carpette, en fait. Je peux avoir une posture professionnelle ferme, même si le mec en face, il m'écrase de par son statut. Et en l'occurrence, si je me comporte en étant écrasé comme une carpette, je peux générer de l'insatisfaction, du conflit, et c'est l'image de mon entreprise qui va en souffrir. Et donc mon image au sein de l'entreprise, et donc ma capacité à évoluer dans l'entreprise aussi, par effet de barre. Donc quelque part, le fait de pouvoir dépasser ces cadres de représentation qui sont les nôtres, nous permet aussi de rééquilibrer, de se repositionner comme la personne nécessaire à l'instant T. Si j'ai un technicien qui possède un savoir sur un support particulier et que c'est un DAF qui m'appelle à ce moment-là, s'il m'appelle, c'est qu'il a déjà fait l'aveu d'avoir besoin de l'expertise technique. C'est pas parce qu'il est DAF qu'il a pas besoin de l'interlocuteur qui l'appelle. Et ça, dans l'esprit du technicien final, eh bien, faut qu'il fasse un sacré travail sur lui pour se dire que là, il est l'expert, et le fait que le DAF ait pris son téléphone, c'est déjà un aveu d'expertise. Donc il y a un niveau d'équilibre. Il n'est pas censé être soumis.
Il y a une chose qui est très importante en jeu de façon générale, mais si on veut que ce soit un bon lieu d'apprentissage, il faut que ce soit absolument un environnement safe, c'est-à-dire un environnement dans lequel les joueurs peuvent se sentir en confiance et savoir qu'ils ne vont pas juger les uns les autres, qu'il n'y aura pas de grief à la fin de la partie. Du coup, ça permet de pousser un peu les curseurs. Quand Julien parlait d'expérience en jeu de rôle grandeur nature, un peu plus musclé, on va dire, l'accompagnement est effectivement nécessaire. Et c'est vrai aussi dans les pratiques de jeu. C'est-à-dire, si je veux vraiment expérimenter l'autre, y compris dans ses excès, il faut que je sache que les gens ne vont pas me juger pour ça pendant, après la partie, qu'à un moment, si moi, un comportement me met mal à l'aise, je peux dire stop, ou je peux dire, oula, on calme un peu le jeu. Enfin, c'est très très important vraiment d'établir ces choses-là. Alors c'est important de les établir de façon générale quand on joue. J'ai une amie, Célène Tonon, qui dit que ça tient dans la simple et unique phrase « faut pas jouer comme un connard ». Mais c'est très exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, être respectueux de l'autre et avoir placé comme cadre que c'est ça la base, c'est ça qui est nécessaire d'abord et avant tout. C'est pour moi quelque chose de fondamental pour que les gens soient libérés de la partie jugement social et puissent vraiment profiter de l'expérience pour en retirer quelque chose.
Et pour faire le lien avec la formation et l'enseignement, c'est absolument nécessaire dans des situations d'enseignement aussi. Si on n'a pas établi cette forme de confiance, les étudiants ne pourront pas apprendre ce qu'on a à leur transmettre. Ils pourront apprendre de leur côté, avec des bouquins, ils pourront se débrouiller. Mais nous, enseignants, on ne leur servira à rien. Et ben, finalement, sur le modèle de ce que décrit Manuel, qu'on utilise en jeu de rôle quand on y fait un peu attention, moi, j'ai tendance à dire très souvent à mes étudiants, attention, ok, je vous note, j'émets des jugements sur vos performances dans la classe, mais c'est ces performances que je juge, c'est pas vous. Je ne vous juge pas en tant qu'humain, je vous juge en tant qu'étudiant. Et très souvent, ça nous a permis de dédramatiser la situation et de tisser des très bonnes relations avec des étudiants qui étaient parfois en grande difficulté. Et à partir de ce point de départ de confiance, ils se sont mis à me faire confiance, à m'écouter, d'où l'importance que je citais tout à l'heure de ne pas abuser de cette confiance, et on a pu progresser. Alors je ne dis pas que je les ai amenés à un niveau extraordinaire, etc. Souvent, on a un temps limité qu'on peut passer avec eux pour travailler et ce qu'on peut obtenir est limité. Mais j'espère les avoir mis sur le bon chemin, en tout cas les avoir aidés à se mettre eux-mêmes sur le bon chemin.
Au sujet de ce rapport de confiance, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. La première, c'est que dans l'enseignement, on est nécessairement confronté à énormément d'erreurs. Non seulement les erreurs des étudiants, mais les erreurs des profs aussi. Et spécialement dans une pratique créative comme la mienne, puisque j'enseigne presque exclusivement la créa sous différentes formes, ces erreurs doivent être non seulement respectées, mais valorisées et exploitées. Exploiter les erreurs du prof, ça veut dire, manifestement, je viens de faire une connerie, vous l'avez tous vu, analysons cette connerie, tirons-en quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment où j'accepte que mon statut de prof puisse être remis en question et qu'il ne repose pas sur mon infaillibilité, je peux l'utiliser pour enseigner. Un autre aspect de l'exploitation de ces erreurs, c'est effectivement d'installer un cadre qui soit suffisamment rassurant pour les étudiants, pour savoir que même s'ils font une connerie, ces erreurs ne vont pas leur vont pas être châtiées et qu'ils vont pouvoir les refaire autant de fois qu'il faudra jusqu'à temps qu'ils apprennent. C'est aussi, à mes yeux, un aspect très important en jeu de rôle, qui est de pouvoir profiter des conneries, non seulement parce que ça permet de raconter des histoires parfois plus intéressantes ou de ramener des rebondissements, mais de s'habituer au fait que essayer quelque chose, c'est d'abord échouer beaucoup. Et tout particulièrement, puisqu'on parlait de la confiance avec les apprenants de manière générale, lorsque moi je sanctionne un étudiant, et parfois sur son comportement, Julien parlait de ne pas les juger en tant qu'humains, moi, j'introduis une nuance qui est de juger leur comportement sur l'instant. Et il m'arrive assez régulièrement de dire à des étudiants qui n'ont rien foutu, car aux arts appliqués, Dieu sait qu'on en a, tu es un branleur, mais c'est ton état, c'est pas ta nature, ça peut changer. C'est transitoire. Et expérimenter cette erreur, c'est aussi, à mes yeux, en jeu de rôle, un énorme moteur scénaristique, mais aussi un énorme moteur d'émotion. Il y a plein de manières de se planter. Et ça va produire tout un tas de situations, espérons-le, dramatiques, non pas au sens de « ça va être grave et ça va être affreux », mais au sens de « l'action et le drama avancent pendant ce temps-là ».
Écoute, juste pour revenir sur ce point-là, finalement, ce que je fais, c'est je reproduis les situations de jeu de rôle. On a passé un contrat, je suis leur meneur de jeu, je juge leur personnage, le personnage qu'ils incarnent lorsqu'ils sont étudiants. Voilà.
Il nous reste un petit quart d'heure, on est ouvert à toutes vos questions. Il y a un micro qui arrive par l'arrière de la salle. Ah, une main se lève.
C'est toujours le mec en plein milieu, parce que comme ça, c'est pratique pour le...
C'est le premier.
C'était pour qu'on me repère, effectivement. Bonjour, et déjà, merci pour cette table ronde, parce que moi, elle m'intéressait, je suis formateur en travail social. Du coup, forcément, j'attendais avec impatience, je suis pas un grand rôliste. Donc j'ai pu découvrir 2-3 points. Néanmoins, j'utilise.
Il n'est pas
quand
trop
même...
tard.
Il n'est pas trop tard. J'en ai fait un tout petit peu. Néanmoins, j'utilise aussi le jeu de rôle, notamment pour la gestion des conflits dans le domaine du travail social. Alors je m'en sers aussi. Je tenais juste à faire part de l'expérience et à poser une question en fait, un truc qui me turlupine. Je compte sur votre expertise pour me rassurer et m'apporter des éléments dans ma pratique. Je vous mets bien la pression, là. Je me sers également des jeux de rôle. Vous avez beaucoup parlé du jeu de rôle pour mettre en avant, enfin, comment dire, pour permettre aux gens de développer de la compétence, du savoir-faire, du savoir-être. Pour ma part, je pense qu'on peut aussi s'en servir pour mettre en avant des phénomènes en termes de dynamique de groupe qui sont plus parlantes que... Quand je parle, par exemple, de pression de la conformité au leadership, il y en a toujours qui me disent « Non, mais ça n'existe pas. » Il n'y a pas le leadership. Moi, j'y crois pas. Il n'y en a pas dans mon équipe de travail. Il n'y a pas de leader. OK, d'accord. Alors que lorsqu'on fait un jeu de rôle où je demande de compter qui a pris le plus la parole et à qui on s'adresse le plus, là, tout de suite, paf, c'est visible. Donc, on peut s'en servir aussi pour élever les phénomènes. En revanche, par rapport à ce que vous disiez sur la relation de confiance, c'est vrai que, pour ma part, j'essaie de mettre les gens en confiance, de présenter le rôle, de dire « on va pas vous juger, blablabla, blablabla ». Sauf que, malgré tout, il y a deux écueils. Vous en avez évoqué un qui apparaît, c'est un, l'écueil de la caricature. Parce que je l'ai jamais fait, je l'ai fait une fois, en fait. Si je demande de jouer le rôle d'un usager, donc d'un schizophrène, par exemple, versus un éducateur spécialisé, ça marche pas, il n'y a rien qui sort, parce que celui qui joue le rôle du schizophrène va avoir tendance à exagérer. Et la deuxième chose, et c'est là où je vais demander si vous avez des choses, c'est que j'ai le sentiment que pour qu'un jeu de rôle soit efficace en termes d'apprentissage, il faut que les joueurs soient motivés à le faire. Et même si je place un cadre rassurant, en disant « vous n'allez pas juger », etc., pour ma part, j'ai été confronté à des étudiants qui s'en fichaient royalement, qui du coup d'ailleurs faisaient pourrir le jeu de rôle, ce qui fait qu'on n'en sortait pas grand-chose. Donc je ne vous raconte pas la galère après pour réussir à tirer des informations pendant une heure et demie. Donc je voulais savoir si vous étiez confronté à ce problème-là, comment vous arriviez à outrepasser les freins qu'il peut y avoir au jeu de rôle. Merci et désolé pour ce long temps de parole.
Je vais commencer. Oui, alors déjà, je trouve ça très intéressant de souligner que on a beau présenter des situations un peu idylliques, dire comment pour nous ça marche, il y a beaucoup de moments où ça ne marche pas. Pour vous donner un exemple récent dans lequel ça a mis beaucoup de mal à marcher, j'ai l'occasion de donner des cours de chimie en anglais. Pour faire parler les étudiants, je leur présente des situations. Je fais une mise en situation simple. Je leur dis, voilà, on parlait de la sécurité en laboratoire. Je leur dis, voilà, nous sommes dans le laboratoire, vous êtes technicien, vous venez d'avoir un incident au niveau de la machine sur laquelle vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites? Situation de jeu de rôle, question très classique en jeu de rôle, qu'est-ce que vous faites? Alors, premier groupe d'étudiants, tout de suite, ils participent énormément, ils s'amusent, ils commencent à agiter les bras en criant « smoke, smoke, fire, help, help ». Voilà, bon, bah, le niveau d'anglais, évidemment, on travaille sur la prise de parole à ce niveau-là, donc c'est pas très grave. Mais ça marche. Très bien. Deuxième groupe, même situation, 2 heures plus tard, donc avec l'autre partie de la classe. Silence total. Alors, je me sens mal, hein. Évidemment, ça marche pas, mon histoire. Je me demande bien ce que je vais faire pour m'en sortir. Puis, je me dis, bah, je vais inverser la situation. Je vais me mettre moi-même en position de vulnérabilité pour leur permettre de, eux, prendre l'ascendant sur moi. Ce qui s'est passé, c'est que je leur dis, bon bah voilà, non, attendez, on change, c'est moi le technicien. Là, je viens de faire une bêtise, vous m'avez vu, je viens de mettre le feu au laboratoire, et je viens vous voir parce que vous êtes mon patron, et qu'est-ce que vous me dites? Alors là, évidemment, j'en vois quelques-uns qui sourient un peu, pas les plus simples d'ailleurs de la classe à faire parler, et j'en ai un qui me regarde dans les yeux, qui me fait, you're fired. Vous êtes viré. Et bah ouais, à partir de ça, tout le monde a rigolé, on a décoincé la situation. Alors j'ai bien conscience que c'est des situations qui sont très anodines par rapport à des situations avec des troubles mentaux, des publics difficiles. Là, je parle pas de publics difficiles, je parle des publics plutôt faciles. J'ai pas l'expérience de ces publics-là, donc j'ai du mal à décrire. Mais moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est peut-être ça. C'est peut-être essayer d'inverser un peu la situation, de montrer l'exemple en acceptant de se mettre à un niveau similaire, finalement d'éliminer le maître de jeu quoi, quelques minutes, histoire de leur dire voilà, regardez, moi aussi je peux faire des bêtises, hein, moi aussi je peux forcer un accent français très mauvais pour vous mettre en confiance, il n'y a pas de souci, hein. Puis d'ailleurs il y a plein de mots que je ne connais pas, donc voilà.
On vient de passer un bon moment à dire que je reprends d'abord sur le deuxième point, je reviendrai rapidement après sur le premier. On vient de passer un bon moment à dire que le jeu de rôle, c'est l'occasion d'expérimenter l'échec sans que ce soit vraiment grave. Et pour le coup, une partie aussi, ça peut être raté. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est d'admettre qu'elle soit ratée, de pouvoir pratiquer une analyse collective et puis d'en refaire une, quoi. Parce que, effectivement, quand on s'est raté, on a plus de chances de réussir la fois d'après. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, en admettant que ça rate, en disant, OK, bon, voilà, ça n'a pas marché du tout. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Et puis voir un peu comment les gens s'impliquent. Après, un anti-joueur qui reste sur une position anti-joueur, ça arrive, ça pourrit des parties, hein, mais comme un membre d'équipe problématique dans une situation d'équipe et qui refuse d'admettre qu'il a un comportement problématique ou de travailler dessus, à un moment, si la personne ne veut pas avancer, c'est que ça devient difficile d'avancer avec elle. C'est une réalité dans tout comportement social. On peut, effectivement, je pense que l'approche de Julien, de dire à un moment, se mettre en position de vulnérabilité, et quand tu es animateur d'une partie, dire « ça a foiré », quelque part, j'amenais mon expertise d'animateur et ça a raté. Donc je suis en position de vulnérabilité. Comment on fait là-dedans pour améliorer les choses? C'est des trucs qui peuvent aider. Et pour revenir sur la première, sur les histoires de temps de parole dont tu parlais, c'est vrai que le jeu, de façon générale, ça permet de modéliser le monde en le simplifiant énormément. C'est probablement beaucoup plus compliqué de coloniser une île que dans les colons de Catane. Mais le fait est que, parce qu'on modélise, on comprend les principes généraux plus facilement et du coup, ensuite, on les applique plus facilement au modèle complexe qu'est sa propre vie. Donc, je pense qu'il y a des choses très intéressantes dans le jeu là-dessus, sur le sortir les grands trucs saillants pour mieux comprendre comment ça s'articule.
Une nouvelle question ?
Bonjour, en fait, moi je suis rôliste depuis très longtemps et effectivement j'ai tout à fait conscience des dérives que ça peut apporter en fait sur les publics sensibles. Il y a eu beaucoup de dérives de gens qui sont mis à manger le sang de leur copine parce qu'ils avaient joué à Vampire en fait et qu'ils étaient un peu instables. Comment est-ce qu'on pourrait gérer ce genre de situation-là vous avez eu de l'expérience de travailler avec des
personnes... Juste une question, tu parles de quel fait divers en particulier, boire le sang de la copine ? C'est une affaire particulière ou...
C'est une affaire particulière dans une convention. On s'est rendu compte après qu'elle était mentalement instable. Peut-être dans un cas extrême de jeu de rôle, en fait, hein, de grandeur nature, et elle est partie complètement dans son délire.
Je vais me permettre de répondre si c'est possible. D'une part, si, ça tout dépend du problème qu'on évoque ici. Si c'est gastrique, on va prendre le space-fond. Mais en l'occurrence, ici, on est sur des considérations qui, je pense, sont portions congrues, pour être simple, et qui appartiennent à des phénomènes psychiatriques. Qu'on pourrait qualifier de rares, qui sont totalement en dissociation avec l'environnement dans lequel on vit, normalement. Et là, on parle d'outils, hein, d'outils dans des contextes où, généralement, ces gens sont déjà exclus, en fait, malheureusement, ou heureusement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on parle de contexte professionnel, on parle de contexte d'éducation, des comportements aussi déviants, en général, on va déjà les avoir vus par le truchement de la famille, par le truchement de l'environnement social, etc. Donc j'ai comme un doute sur l'approche de la question dans le contexte du rapport à la formation pure, quoi.
Attends, moi si je peux répondre, parce que moi j'ai été en assos de GN Vampire pendant des années, hein. Bon, évidemment, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu ça, ni rien, mais mettons que ce ne soit pas qu'une légende urbaine, comme disait Manuel, mais que ça existe réellement. Je voudrais rappeler simplement qu'en tant qu'organisateur de jeux de rôle, joueur de jeux de rôle, nous ne sommes pas psy. Il n'est pas de notre responsabilité de gérer des comportements de ce type. La seule chose qu'on puisse faire, c'est un acte citoyen de signaler à la famille et aux proches de la personne qu'il y a un problème et qu'ensuite elle soit prise en charge. Il est hors de question, pour ma part, que ce soit en tant qu'enseignant d'ailleurs ou en tant que rôliste, de prendre en main des comportements pour lesquels je ne suis pas formé. Je risque de faire beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose que, bah, encore une fois, la position dominante qu'on a en tant qu'organisateur, meneur de jeu, etc., peut nous amener à oublier. Donc il faut s'en souvenir, quoi. C'est pas notre boulot.
Je vais faire un peu le parallèle avec la question précédente, en fait, sur les comportements déviants. J'avais hésité à répondre parce que la réponse peut être un peu longue, mais du coup je vais donner un exemple qui s'inscrit dans ma propre pratique professionnelle récente. J'ai eu deux groupes issus de la même équipe à former à des instants différents. Un premier groupe de 5 personnes où justement la pratique du jeu de rôle s'est inscrite dans une dynamique qui s'est très bien déroulée, où les gens ont été parties prenantes, se sont très bien comportés en s'impliquant. Second groupe constitué de 7 personnes où j'avais plusieurs interlocuteurs qui étaient en défiance déjà avec la posture de l'entreprise qui les envoyait en formation. Donc bonjour, le raccrochage de wagon déjà, c'est un peu tendu. L'un d'entre eux, j'ai jamais réussi sur 2 jours à atteindre un compromis autre que celui de cesser de perturber la séance au détriment des autres. J'ai même pas pensé une seconde l'intégrer à ces mécanismes de jeu de rôle. Il m'aurait complètement pourri la situation, ça n'avait aucun sens. Et mon rôle à moi là-dedans s'inscrit dans un contexte où, même s'il y en a un qui s'exclut de fait, les autres doivent continuer à bosser en fait. Alors ça m'a posé une difficulté particulière puisque je m'inscris dans un contexte qui est celui d'un centre de formation. Du coup, puisque c'est un centre de formation, se positionner en tant que bourreau peut être problématique. Or, derrière, évidemment, on m'a demandé des comptes, hein, mon commanditaire me demande des comptes, voire même me demande un rapport écrit permettant la sanction, alors que si l'individu se comporte comme ça dans la session, sans d'ailleurs que ça ne semble troubler qui que ce soit, de ses collègues, ça veut dire qu'il est déjà dans des comportements parfaitement déviants au travail, dans son contexte quotidien, et que quelque part, il y a quelques interrogations à se poser sur le comportement finalement managérial et RH de l'entreprise.
Une dernière question ? Très bien, ben merci. Ah, hop, juste attends.
Donc on parle beaucoup de formation, de jeux de rôle, tout ça, et c'est une structure dans laquelle on a clairement le formateur qui est dans une position de sujet qui sait et qui va amener des gens à découvrir des choses, à apprendre des choses par essentiellement une implication émotionnelle qui va leur permettre de se mettre dans un autre point de vue. Et à quel moment, enfin, est-ce que la question se pose à quel moment on permet à ces gens-là de prendre du recul par rapport à ça et éventuellement eux aussi de pouvoir devenir maître du jeu en quelque sorte.
Alors, il y a plusieurs choses. Je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites. Hein, mais d'abord, je ne vais pas m'étendre dessus, même si c'est une marotte. Il y a des approches qui sont du jeu sans meneur où, effectivement, là, il ne s'agit pas tant de transmettre un savoir que d'expérimenter des positions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et le formateur, dans ce cas-là, il n'est pas dans une position de meneur qui transmet le savoir, mais dans une position d'animateur qui va mettre en place un dispositif. Et ensuite, je ne vais pas dire laisser les joueurs se débrouiller avec, mais en tout cas, qui va servir plus de modérateur que de référent d'un savoir. Et puis, de façon générale, il n'y a pas besoin de discuter très très longtemps avec des formateurs ou des enseignants pour réaliser à quel point eux-mêmes ont souvent la certitude de manquer de savoir, de tâtonner et du coup ça, c'est quelque chose, c'est un processus aussi, faut avoir envie de transmettre des trucs quoi, je pense.
Sinon, de manière plus générale, que ce soit de la formation ou de l'enseignement, l'objectif est toujours le même, c'est qu'à un moment les apprenants soient autonomes. Donc assez logiquement, quand on met en place, enfin j'imagine que c'est vrai pour mes petits camarades aussi, quand on met en place des formations ludiques, il y a un moment où il est extrêmement utile de laisser les apprenants gérer le jeu eux-mêmes. Que ce soit le prolonger eux-mêmes ou se l'approprier, repartir avec, continuer à jouer tout seul. En tout cas, qu'on puisse, nous, formateurs, passer en retrait pour les laisser expérimenter eux-mêmes et effectivement changer de rôle pour le coup.
Un dernier petit mot ?
Ouais. Je veux juste donner 2 situations très très concrètes où on a cette inversion systématiquement. La première, c'est quelque chose que je dis toujours à mes étudiants qui vont présenter des soutenances de stage. Je leur dis, attention, cette fois-ci, c'est vous l'expert, c'est vous qui avez fait le travail, c'est vous qui présentez, c'est vous qui transmettez le savoir. Donc là, on est exactement dans la situation où l'apprenant se retrouve dans un contexte d'enseignant. Deuxième situation, dans les filières sciences et technologies de laboratoire au lycée, nous avons des projets qui sont réalisés par les étudiants. Ces étudiants doivent ensuite, lorsqu'ils ont suffisamment avancé sur leur projet, proposer l'application de ce projet au reste de la classe. C'est-à-dire qu'au lieu d'une séance de travaux pratiques classique, dans laquelle l'enseignant arrive avec un sujet de TP, eh bien c'est un groupe d'étudiants qui arrive avec son sujet qu'il fait travailler aux autres. Voilà.
Je voudrais juste, pour conclure, dire un petit mot tout simple, mais... Quand on est dans une posture de maître du jeu, généralement, on s'inscrit déjà dans une posture où on a envie de transmettre. Et il y a un réel parallèle avec l'enseignement et la formation en général. C'est qu'on dit, on met en œuvre tout un tas d'outils pour pouvoir nous faciliter la vie, pour transmettre. Et effectivement, le jeu de rôle en regorge, les mécanise autour d'un gameplay. Et peut-être qu'il y a des choses à creuser là-dedans pour des questions qui sont relatives à des questions de notre quotidien ou de notre environnement professionnel.
Alors, deux, trois petites choses avant de se quitter. D'abord, merci à vous, merci aux intervenants autour de cette table. Si vous souhaitez tester le jeu de rôle, n'hésitez pas, ou même jouer à du jeu de rôle si vous connaissez, allez au niveau moins 1 de la Cité des Congrès, qui a des maîtres qui sont là pour, enfin des maîtres de jeu, pour vous initier ou même faire jouer à des jeux de rôle. Meneur, oui, si tu veux, pas de problème. Et deuxième chose, un peu de réclame, demain après-midi, nous organisons sur la grande scène à 16h30 une partie de Robo Rally, donc l'adaptation en grandeur nature du jeu de plateau Robo Rally, donc avec une scène de 36 mètres carrés, un jeu qui va mettre les joueurs dans la posture de robot et de programmeur. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne soirée.